RMC.
Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire, si vous avez des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts.
C'est très important, la concurrence. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'est meilleur.
Monsieur, vous êtes un con.
After Paris.
Thibaut Giangrande.
Salut mes Parisiens, comment ça va? Bienvenue dans l'After Paris, le podcast qui débat de l'actu du Paris Saint-Germain. Toutes les semaines, dispo partout. Vous le savez, sur toutes les applis, n'oubliez pas de vous abonner. L'équipe du jour, Jimmy Brown est là. Salut Jimmy.
Salut Thibaut, salut coach, bonjour à tous.
Et oui, coach, c'est Roland qui est là. Salut mon Roland Courbis.
Salut les amis.
Paris parfaitement lancé. Le PSG a réussi son après-trêve. Victoire au Vélodrome, qualif pour la finale de la Coupe de France. Place maintenant aux choses très sérieuses, puisqu'après la parenthèse Clermont samedi, c'est le Barça qui se présente au Parc des Princes la semaine prochaine. Après Marseille, après Rennes, le PSG est-il prêt pour Barcelone? C'est notre débat de la semaine. Coach Jimmy, comment vous avez trouvé Paris contre Rennes et Marseille? Ces deux matchs dont on a beaucoup parlé avant la trêve, on en a parlé comme de possibles répétitions avant le Barça parce que c'était des matchs d'importance. Comment vous avez trouvé Paris? Et d'ailleurs, lequel Paris vous avez préféré, Marseille ou Rennes?
Ah, difficile de faire des comparaisons, mais bon, je pense qu'on a vu un Paris efficace, réaliste, puisque ce sont les termes un petit peu à la mode pour analyser une équipe qui est quand même efficace. Marseille, quand il y a l'expulsion, on peut se dire que ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain et se débrouille de gagner quand même. Le match contre Rennes, on a quand même un Rennes ambitieux qui a la possibilité aussi de pouvoir jouer sa chance. Et on a vu un Rennes moyen. Et ce Rennes moyen, la principale cause de ça, le responsable de ça, c'est le Paris Saint-Germain. Pas de blessés. Des joueurs qui sont rentrés dans ce match-là, notamment Marquinhos, Mendes, donc qui sont quand même très, très, très importants. Donc oui, je pense qu'avec encore une revue d'effectifs contre Clermont, la possibilité aussi d'avoir un calendrier qui ne permet pas de voyager. Il y a eu le match contre Rennes où le soir même, tu pouvais déjà t'occuper de la récupération. Donc, revue d'effectifs encore contre Clermont. Et après, je pense que il y aura deux matchs très intéressants, aller et retour, avec premier match au Parc.
Parfaitement géré, donc, ces deux matchs pour le Paris Saint-Germain. Jimmy?
La première chose, c'est que, honnêtement, moi, je m'attendais à une autre adversité, que ce soit contre Marseille ou contre Rennes. Je pensais que le PSG allait plus être mis en difficulté. Alors après, c'est toujours pareil, comme disait Roland, si Rennes a pas été impressionnant et a été plutôt même décevant hier au Parc des Princes, le PSG a sûrement une part de responsabilité. Pour autant, que ce soit le match à Marseille, moi, je me suis dit que ça va être un vrai test, tu vois, la deuxième période de... Pour répondre à ta première question, en tout cas, la période qui m'a le plus plu sur ces 4 mi-temps des deux matchs contre Marseille et Rennes, c'est la deuxième période à Marseille.
À 10 contre 11.
Ouais, c'est la 10 contre 11. Franchement, là, le PSG, je les ai trouvés impressionnants. J'ai aussi aimé le coaching de Luis Enrique, tu vois, qui a été récompensé à Marseille en faisant rentrer Ramos et Asensio à la place de Dembélé et Mbappé. Tout le monde était paniqué. Bah, il a été récompensé puisque le deuxième but parisien, c'est une passe D d'Asensio pour un but de Ramos. Ça, c'est toujours bien. Après, voilà, je trouve que le PSG n'a pas été poussé dans ses retranchements. Je pensais
pas assez.
Marseille, c'était avec les absents qu'il y avait côté marseillais, on se doutait bien que voilà, ça allait être compliqué pour l'OM. Mais contre Rennes, franchement, moi, je m'attendais à un tout autre match hier. Et la réalité, c'est que Rennes a été inoffensif et que je pense qu'on aura un Barça différent. Évidemment, on va mettre le match de Clermont de côté puisque ça ne sera pas un test avant Barcelone.
Mais samedi 21h.
Je pense que l'adversité sera tout autre contre Barcelone que ce qu'elle a été contre Rennes et contre Marseille avant. Donc c'est difficile. Je trouve que c'est à la fois, on va un peu dans l'inconnu et c'est à la fois ultra excitant parce qu'on va vraiment savoir là dans les 10 jours à venir ce que le PSG a dans le ventre.
Il y a eu deux 11 un peu différents, pas totalement, mais un petit peu entre le match à Marseille dimanche et la Coupe de France mercredi soir contre Rennes.
Mais à Marseille, c'était aussi un 10.
De quoi? Ah oui, oui, la deuxième période, absolument. Mais si on regarde le 11 de départ, et je sais que toi, Roland, t'as ce système de dire que t'as un 11 qui va faire 60 minutes et les changements après. Mais comment tu démarres face à Barcelone? Est-ce que tu démarres avec l'équipe de dimanche, avec par exemple Colomoni titulaire devant, avec Beraldo en défense, ou est-ce que tu prends plutôt le 11 du Paris Saint-Germain contre Rennes, avec Nuno Mendes arrière-gauche et une charnière Lucas Hernandez-Marquinhos, avec Lee Kang-in pourquoi pas, avec ce système un peu plus hybride peut-être? C'est quoi la meilleure version finalement du Paris Saint-Germain?
Difficile à trouver parce qu'il y a le problème d'Hakimi. Problème d'Hakimi.
Bah lui, il est toujours là, quoi qu'il arrive, à droite.
Il est suspendu. Suspendu.
Oui, au match aller. Oui.
Donc là, savoir quelle solution pour trouver le remplacement ou le remplaçant d'Hakimi, pas évident. Je trouve que c'est dommage de mettre le petit Zahir.
Et précisons que le petit Warren, il est sorti hier avec une touche de glace sur une cuisse et une autre sur un mollet. Ouais. Donc de
parce que c'est lui, a priori, c'est lui. Il va pas nous mettre Solaire arrière droit face au Barça, quand même.
On peut tout imaginer, franchement, on peut tout imaginer, puisqu'en plus Warren Zaïre Emery a joué milieu de terrain sur les deux matchs. Peut-être qu'il va avoir besoin de lui au milieu aussi. Si tu le mets arrière droit, tu le perds au milieu. Il faut trouver une solution de remplacement. Tu as un équilibre à trouver aussi.
Mokele, on n'en parle pas. Ça me paraîtrait être une solution, mais il paraît qu'il y a une relation difficile avec le coach.
Et puis
Mokele,
si voulait le mettre contre Barcelone, il lui aurait donné un peu de temps de jeu, que ce soit contre Marseille ou contre Rennes. On l'a pas joué une minute, Mokele.
On va voir contre Clermont peut-être.
Bah justement, défensivement. Hakimi sera là au retour, il n'est pas là à l'aller, mais bon, c'est quoi la meilleure défense pour le Paris Saint-Germain? Beraldo arrivé en janvier, ok, en défense centrale il a fait des très bons matchs, Marquinhos est revenu et plutôt bien contre Rennes, il a fait une bonne partie du match. Vous mettez quelle équipe mercredi prochain?
Marquinhos sûr, et après un des deux gauchers, et de voir ce qui se passe avec Mendes, titularisé Mendes. Est-ce que Mendes va faire encore une petite mi-temps contre Clermont pour justement continuer à travailler son rythme, puisque rester pratiquement un an sans jouer, c'est énorme. Et ce joueur-là en forme est quand même un joueur très intéressant et très important.
Donc si c'est Nuno Mendes couloir gauche, tu mets qui à côté de Marquinhos? Plutôt Beraldo ou plutôt Lucas Hernandez?
Alors là, je te dis un truc, sincèrement, c'est 50-50 pour moi.
Et si on y... moi, je pense
c'est marrant
que...
quand même de pouvoir... C'est fou, je trouve, de pouvoir avoir cette réflexion-là, sachant que voilà, il y a Beraldo, il y a 3 mois, on ne le connaissait pas, il n'avait pas joué une minute, et face à Lucas Hernandez, qui est arrivé pour...
Moi, je pense vraiment qu'il peut calquer sur ce qu'il a fait hier, Luis Enrique, à savoir mettre 3 défenseurs. Tu vois, hier, il a joué avec Nuno Mendes, il joue en espèce de 3-4-3, 3-3-4, on peut le définir comme on veut, mais tu mets, hier, on voit bien en première période, il joue avec Nuno Mendes, Lucas Hernandez et Marquinhos. Ce à quoi tu pourrais mettre Beraldo, Lucas Hernandez, Marquinhos contre Barcelone, et Nuno Mendes un cran au-dessus, comme il a pu le faire contre Montpellier en deuxième période, quand Nuno Mendes rentre. Tu sais, il avait ce rôle un peu de milieu de terrain qui rentre intérieur comme
Le semblant d'arrière droit, donc...
Marquinhos.
Hein?
Marquinhos dans une défense à 3 qui occupe, comme hier, il l'a occupé en première période. Le poste, vu qu'Hakimi était très haut tout le temps, dans les faits, il jouait parfois même quasiment numéro 10 dans le cœur du jeu, Hakimi. Et tu voyais Marquinhos qui collait, avec évidemment Ousmane Dembélé ou un Kanguini qui va venir coller à la ligne de touche côté droit. Mais avoir ce système à 3, un peu hybride, où Nuno Mendes s'intègre dans le milieu de terrain. Encore une fois, il l'a fait contre Montpellier, ça a super bien marché quand Nuno Mendes est rentré en deuxième période. Normalement, il le fait avec Hakimi, mais vu que là, Hakimi n'est pas là, peut-être qu'il va inverser, qu'il va mettre Beraldo, Lucas Hernandez, Marquinhos. Ensuite, ça te donnerait, si tu calques un peu sur la composition de départ du Paris Saint-Germain d'hier...
T'avais Vitinha, Fabian Ruiz, Zaïre Emery, plutôt les 3 du milieu.
Voilà.
Mais sachant que Zaïre Emery sera peut-être arrière droit sur le match aller, non, sauf s'il fait ce système-là.
Bah voilà, en fait, si tu veux, t'avais 3 défenseurs, après t'avais 2 milieux de terrain. T'avais une espèce de boîte au milieu, tu sais, t'avais une espèce de boîte avec Vitinha, Fabian Ruiz, Zaïre Emery et Hakimi. Donc là, au lieu d'avoir Vitinha, Fabian Ruiz, tu les gardes, tu mets Nuno Mendes et Zaïre Emery, et devant, tu mets Mbappé, Dembélé, pourquoi pas Asensio, pourquoi pas Lee, pourquoi pas peut-être Colomwani si tu veux garder Ousmane Dembélé en position de numéro 10, ça il faudra voir. Il va s'adapter aussi un peu à ce que fait Barcelone. Je pense qu'il va avoir la volonté de bloquer, eux ils jouent avec Joao Cancelo arrière gauche. Et João Cancelo, qui est un latéral qui se projette beaucoup, qui a des vraies qualités de contre-attaquant, mais qui est peut-être pas un super défenseur. Donc peut-être la volonté de lui mettre Ousmane Dembélé pour le bloquer, l'empêcher de trop se projeter. Ça peut être une option. Mais moi, je n'exclurais pas, en tout cas, cette possibilité de retrouver cette espèce de 3-4-3 qu'il avait affectionné, qui avait été notamment le système quand il était à Barcelone, qu'il avait conduit au match retour à faire la remontada contre le PSG, c'est de jouer avec 3 défenseurs, 4 milieux.
Mais il l'a pas énormément fait avec Paris. C'est ça qui serait un peu étonnant. Il l'a fait un peu au début de l'hiver.
Il l'a fait avec Hakimi dans ce rôle-là. Tu vois, ouais, qu'il s'intègre. On l'a déjà vu. On l'a vu contre Montpellier encore une fois. Ouais. Bruno Mendes. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il tente de jouer comme ça.
Je trouve qu'il l'a pas beaucoup testé. Il l'a pas beaucoup répété pour le faire face au Barça en quart de finale de Ligue des Champions quand même.
Moi, je pense sincèrement que c'est un scénario pas à exclure. Et je pense que la volonté de mettre Marquinhos à ce poste-là hier, c'était une manière de préparer Barcelone aussi.
Tu parlais de Ousmane Dembélé. Pareil, depuis 2-3 matchs. Nouveau poste, cette espèce de 9,5 là, même si face à Rennes en Coupe de France il a été un peu plus sur le côté droit que face à Marseille dimanche. Roland, tu le préfères dans quel poste, Ousmane Dembélé? Sur le côté, collé à la ligne, en train de faire ses débordements, ou dans le cœur du jeu, à toucher énormément de ballons?
Dans un traditionnel, parce que bon, moi je suis, si tu veux, un petit peu dépassé dans ce que j'entends aujourd'hui, moi je reste avec mon 3-4-3 ou mon 4-3-2-1 ou mon 4-2-3-1. Dans le 4-2-3-1, ben Dembélé, pour moi, joue à tous les postes de la ligne de 3. Mais de préférence, côté gauche, pour moi, puisque j'ai eu le plaisir de le connaître et de me l'apercevoir. Ensuite, dans un rôle de 9,5. Et c'est en troisième position que je le mets côté droit, là où il est utilisé très souvent. Plus maintenant, puisqu'il y a cette invention de le mettre dans un rôle de numéro 10, mais sans numéro 9 devant lui. Alors que moi, je pense que...
C'est le rôle de 9,5, ça, Roland.
Voilà, un Mbappé en retrait d'un véritable 9 que pourrait être Ramos, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas non plus.
Moi, je pense qu'il y a aussi peut-être la volonté de chez Luis Enrique de mettre son joueur le plus créatif, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais au PSG, dans l'effectif actuel, celui qui est capable de faire des différences par le dribble, par la passe, celui qui a cet éclair. Alors évidemment, il a beaucoup de déchets dans la finition, mais c'est Ousmane Dembélé, le facteur X, oui, entre guillemets, c'est cette
équipe. Un peu Vitinha, qui le fait un petit peu.
Oui, mais à une autre échelle, Vitinha, c'est le joueur qui va te... On dit souvent box-to-box, qui va t'amener, qui va récupérer les ballons, qui va les remonter, etc. Mais dans la zone décisive, celui qui est capable de faire des différences, c'est Ousmane Dembélé. Il a cette volonté-là de le mettre dans le cœur du jeu pour ensuite qu'il puisse exploiter. Moi, une action type de ce que doit faire le PSG contre Barcelone, pour moi, c'est l'action d'hier, du match contre Rennes, pardon, de l'arrêt de Mandanda sur Mbappé quand il tape la barre. Tu vois Nuno Mendes qui te trouve ce décalage, Ousmane Dembélé en une touche qui envoie Mbappé, et tu profites des qualités de vitesse de Kylian Mbappé ensuite pour aller te créer une occasion et presque marquer. Sans un exploit de Mandanda, il y aurait eu une ouverture du score du PSG. Je pense que c'est la volonté de rapprocher Mbappé Dembélé pour qu'ils arrivent à créer une relation technique qui peut être intéressante pour les Parisiens.
Et d'ailleurs, Dembélé qui touche énormément de ballons dans le cœur du jeu, beaucoup plus que quand il est sur le côté. Plus de 100 ballons touchés en 75 minutes contre Rennes en Coupe de France.
Alors, le revers de la médaille de ça, c'est que Dembélé, il perd aussi des ballons dans des zones importantes et des zones dangereuses. Et ça, contre le Barça. Mais... contre Marseille, il en a perdu quelques-uns. Et les Marseillais n'ont pas bien joué le coup, mais je suis persuadé que si tu perds les mêmes ballons qu'il a perdu au Vélodrome contre Barcelone, tu prends 2-3 buts. Hein.
Mais tu verras que Dembélé, quand il est côté droit et qu'il rentre en oblique, il est obligé de finir avec son pied gauche. Et on peut me raconter ce qu'on veut, que Dembélé ait les deux pieds, oui, d'accord, mais il est quand même plus droitier que gaucher. Et c'est pour ça qu'un Dembélé côté gauche, quand il rentre toujours en oblique, il finit avec son pied droit. Et son pied droit, pour moi, que j'ai eu la possibilité de le voir pendant 6 mois, mais son pied droit est beaucoup plus adroit que son pied gauche.
Bah, les faits te donnent raison. Hein. Un but cette saison, alors qu'il a passé quasiment l'intégralité de la saison côté droit. Qui avec Dembélé et Mbappé, le troisième homme? On a vu Colomoni contre Marseille, titulaire.
Ben, moi, je vais te dire...
Likanguin contre Rennes.
Un joueur, mais ce sera certainement pas ça. Donc... Pour moi, je ne me prouve pas de...
Toi, il faut numéro 9.
De Ramos. Voilà, ouais. Parce que j'ai des idées à l'ancienne. Et donc...
Non, mais Ramos, d'ailleurs, pour le coup, il t'avait un peu rejoint ces dernières semaines, Luis Enrique. On l'avait vu beaucoup plus qu'en début de saison. Et en fait, finalement, depuis la reprise, il a redisparu. C'est, de tous les attaquants, c'est le seul. Enfin bon, il y a Asensio de côté, mais qui n'a pas débuté l'un des deux matchs contre Marseille ou Rennes. C'est un peu dur à suivre, Luis Enrique. marquer sur le Caramos.
Après, il rentre, il est décisif à Marseille. Il rentre, il marque. Oui. Je pense qu'il le considère comme une possibilité de sortie de banc. Comme Roland aime appeler ceux qui vont jouer la deuxième partie du match et qui vont terminer. Il fait partie de ceux qui vont terminer les rencontres contre Gonçalo Ramos.
Les titulaires de la deuxième partie.
Voilà, les titulaires de la deuxième partie.
Après, les finisseurs.
Et pour répondre à ta première question, qui pour accompagner Dembélé et Mbappé, ça va dépendre justement du positionnement d'Ousmane Dembélé. Si tu mets Ousmane Dembélé,
comment tu mettrais Dembélé, du coup tu mets qui avec
Moi, je pense qu'il je serais partisan, et je le dis depuis un moment, mais je sais pas si physiquement il va pouvoir être suffisamment frais pour pouvoir suffisamment en forme pour pouvoir être aligné titulaire. Mais je mettrais Asensio, moi, dans cette position de faux neuf, et avec la possibilité de lancer, justement, d'avoir cette touche technique au milieu, parce que lui, là, ce dont je parlais tout à l'heure, tu vois, cette capacité d'éliminer par le dribble ou par la passe, et profiter de la vitesse de Mbappé d'un côté, de Dembélé de l'autre, et les deux qui rentreraient, en fait, tu vois, de jouer avec une espèce d'Asensio en numéro 10 même. Et les deux qui sont libres devant.
Ça fait quand même un sacré effectif pour une saison de transition.
Oui, une saison de transition qui pourrait d'ailleurs finir très fort.
Moi, je comprends pas le principe de saison de transition. Quand on parle de saison de transition au PSG, je comprends pas. Avec les dépenses qu'il y a eu cet été, avec le fait que c'est la dernière année de Kylian Mbappé.
Elle a tout simplement été pour enlever un petit peu de
la pression.
Bah
oui, mais c'est un peu facile, ça. C'est un peu facile. Non, il n'y a pas de saison de transition au PSG. Et justement, ce que je disais en préambule dans ce podcast, là, c'est terriblement excitant parce que tu vas. On a beau dire ce qu'on veut sur le PSG jusqu'à présent. C'est très bien ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, tout va bien, ils sont dans les clous en fait, pas plus, pas moins. Avec l'effectif que t'as, avec les tirages que t'as eu en Coupe de France,
avec les tirages que t'as eu, parce que
t'es leader du championnat, t'es en finale de Coupe de France, la normalité elle est là. C'était anormal les deux saisons précédentes de pas atteindre la finale de la Coupe de France ou de perdre le titre une année sous Pochettino. C'est ça qui était pas normal.
Pour conclure, je voudrais qu'on ouvre un dossier qui pourra être d'importance face au Barça. Kylian Mbappé. Coach Jimmy, comment vous trouvez Kylian Mbappé en ce moment? Est-ce que Kylian Mbappé est en forme? Lui, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il soit là ou pas, et encore que, mais voilà. Est-ce que c'est un Mbappé en forme qui va être là pour affronter le Barça? Vous l'avez trouvé comment? Mais
depuis sa déclaration, quand il pose la question à celui qui lui posait les questions en lui disant « Mais vous m'avez trouvé comment ces derniers temps et tout ?» Ben, il venait de faire un gros match contre Montpellier à l'extérieur, en réalisant un hat-trick. Mais sinon, après, on a vu un Mbappé moyen avec l'équipe de France. Mais dans un contexte particulier, tu tombes juste en équipe de France, au stade Vélodrome de Marseille, une petite semaine avant le Classico. Tu te fais siffler. Derrière ça, il y a le match contre Marseille et le Classico où il est moyen. Et après, hier, il rate ce tête-à-tête de pas grand-chose, mais c'est surtout Mandanda qui fait une sortie très maligne en vraiment attendant au dernier moment. Penalty, il n'a pas pour habitude de les rater ces derniers temps. Et là,
pas hyper bien tiré, d'ailleurs.
Mais non, mais... Ouais.
Mandanda
fait un sacré arrêt aussi.
Mais pas tiré non plus.
Et après, malgré tout, il se débrouille de marquer un but d'un tir dévié pour donner la victoire à son club. Donc on a un Mbappé moyen, mais un Mbappé qui est capable, dans toutes les minutes, de pouvoir être décisif.
Et connaissant le phénomène Kylian Mbappé, moi je suis persuadé qu'il va sortir deux matchs énormes contre le Barça.
C'est le contraire qui m'étonnerait.
Mais est-ce qu'on ne disait pas déjà la même chose matin du match contre Marseille?
Non, parce que Marseille, oui, c'est anecdotique, non, ça l'est pas. Mais ce qui compte pour lui, à quelques mois d'arriver très probablement dans le vestiaire du Real, être le gars qui va éliminer le FC Barcelone quand tu connais Kylian Mbappé rentrer dans le vestiaire en ayant éliminé le FC, rentrer dans le vestiaire du Real en ayant éliminé le Barça en Ligue des Champions, je pense que c'est quelque chose qu'il a dans un coin de la tête.
Oui, mais ça c'est son envie. Est-ce qu'il va en être capable?
Oui,
parce que je suis sûr que Marseille, son dernier match contre Marseille, je me disais il va vouloir partir sur un triplé et leur faire champion pas... cucu à la maison, tu
autant,
vois.
Autant Rennes, moi je l'ai trouvé bon dans l'attitude, autant contre Marseille j'ai pas trouvé qu'il était dans une attitude d'avoir envie de tout casser, etc. Mais à l'image de toute l'équipe d'ailleurs, sur la première période ils sont un peu anesthésiés, les Parisiens, très honnêtement. Il a fallu le carton rouge pour les réveiller un petit peu.
Je te dis en tout, je sais même pas, et ça personne ne le sait, qu'est-ce qui se serait passé à 11 contre 11.
Mais vraiment,
j'ai l'impression qu'on a un Paris
Saint-Germain. Ça les a piqués en fait.
Ouais.
Mais oui.
Meilleur quand ils ont eu l'expulsion.
Ouais, ça, ronronnait,
ça les a piqués,
ouais.
Ça ronronnait, mais tout le monde ronronnait. Et là, je peux t'assurer que contre le Barça en Ligue des Champions, ni Kylian Mbappé ni aucun autre joueur ne va ronronner. Ils vont être à 1000%. Et Kylian Mbappé, la chance que le PSG a, c'est qu'il arrive en bonne forme physique, a priori. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pépin. On peut critiquer Lucien Riquet sur sa gestion, mais le fait est qu'il arrive à un rendez-vous décisif de la saison sans blessé majeur, que ce soit Mbappé ou d'autres joueurs importants de l'effectif. A priori, sauf pépin de dernière minute, là, d'ici le match contre Clermont et aux entraînements jusqu'à Barcelone mercredi prochain. Tout le monde arrive en forme, et un Kylian Mbappé qui arrive en forme pour un rendez-vous comme ça, je suis persuadé qu'il ne passera pas à côté.
Il y a une seule mauvaise nouvelle sur cette infirmerie, c'est que Skriniar est en train d'en sortir.
Ouais, alors ça c'est un problème. Honnêtement, non, les deux entrées qu'il fait, la relance, je sais pas ce que t'en as pensé, mais contre Marseille, mais c'est dingue parce que Skriniar, moi je regardais ses matchs avec l'Inter Milan, c'est pas le même joueur, c'est son cousin qui arrive au PSG, c'est pas possible.
Mon grand-père. J'ai pas l'impression qu'il a le même poids.
Non, mais c'est dingue.
Là, quand je le regarde. En peine.
Et encore, pour être honnête, moins catastrophique, j'ai trouvé contre Rennes que contre Marseille. L'entrée au Vélodrome.
Oh. Ouais. Bah après, t'es pas dans les meilleures conditions non plus, peut-être aussi, mais bon.
Oui, oui.
Et on est d'accord, juste pour conclure, contre Clermont samedi, c'est quoi? C'est équipe B, équipe C, on met vraiment.
Ton ami Navas dans la cage pour commencer, Roland, je pense que tu l'auras. Tu vois, sur ce turnover de Lucien Riquet, moi je suis prêt à mettre un petit billet, je peux vous.
Ouais, je pense quand même, ça serait tout à fait logique pour des tas de raisons. Moi je pensais même que Navas, il allait. Jouer au Stade Vélodrome Marseille trois jours avant le match de Rennes.
Si on peut s'amuser à donner une petite compo probable, moi je mettrais Navas dans la cage. Je pense qu'il va donner du temps de jeu à Mukiele sur ce match. T'auras Mukiele, Marquinhos qu'il faut relancer, à qui il faut donner encore un peu de temps de jeu. Donc
Skriniar peut-être.
Skriniar avec Marquinhos, absolument. Ouais. À gauche, je pense que Nuno Mendes et Lucas Hernandez vont se partager une mi-temps chacun. Au milieu de terrain,
Beraldo aussi. Skriniar.
Non, Beraldo est suspendu. Beraldo est suspendu, il a pris deux matchs, il a pris son deuxième match, donc sera, je pense, Skriniar. Au milieu de terrain, là, il va y avoir turnover, je pense qu'il y aura Ugarte titulaire, il y aura peut-être Soler, il y aura peut-être Carlos Soler qu'on va revoir. Le troisième, oui, Fabián Ruiz va peut-être démarrer.
Ruiz a été bon, hein.
Ouais, Fabián Ruiz, il revient bien, il va se partager un peu de temps de jeu avec Vitinha, et devant,
Ramos, Colomouani,
et peut-être Asensio pour démarrer, ouais.
Ce sera samedi 21h, Paris Saint-Germain-Clermont au Parc, et donc mercredi, ce quart de finale aller de Ligue des Champions au Parc des Princes.
On a hâte.
Bah là, on y est, hein, ça va être excitant.
C'est
le retour 6 jours plus tard. Voilà. Merci les gars, coach,
salut.
Jimmy, merci à Quentin en régie et merci surtout à vous d'être la fidèle à l'After Paris qui fait bien cette semaine de foot. On la débrief la semaine prochaine dans le podcast After Paris. Ciao.
RMC After Paris.